I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 84 du Guillotine Podcast. Alors aujourd'hui, épisode un peu particulier parce que je vais faire une preview de UFC 287. Pourquoi je fais une preview ? Ben parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un podcast audio. Ça date depuis le UFC 285. Et en toute transparence avec vous, ben juste ça me manquait. Vraiment, ça me manquait d'en faire un. Donc j'ai décidé de faire une preview et puis aussi... Évidemment, c'est quand même un gros combat qu'est ce main event sur ce UFC 287. Et quelques beaux petits combats quand même sur la main card, mais aussi dans les prélims et dans les early prélims. Alors, rentrons directement dans l'action avec le combat qui m'intéresse sur les early prélims. C'est Joe Pyfer face à Gerald Merkart. Alors pourquoi Joe Pyfer m'intéresse ? Ben il vient notamment des Contender Series, il a fait forte impression dans les Contender Series, pour ceux qui suivaient un peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais bon évidemment il y a l'ego, il y a toute la personnalité de Dana White qui vient autour de cette citation, mais Dana White qui était parfois tanné de voir des décisions unanimes dans les Contender Series, parce que la façon dont vous vous qualifiez dans les Contender Series, ça reste un petit peu gris. Puisqu'il ne suffit pas forcément seulement de gagner, mais il faut aussi, c'est mieux de gagner de façon, on va dire, spectaculaire, avec un finish, une soumission, un KO, etc. Le KO restant le Saint Graal, évidemment. Et Joe Pyfer avait fait très, très forte impression avec un très beau KO au deuxième round où il avait vraiment mortalisé son adversaire. C'est un mot qui n'existe pas, qui ne veut rien dire, mais vous le comprenez quand même. Et aussi une victoire dans ses débuts au UFC au premier round par KO. Hein, il a des sacrés crochets, Joe Pyfer. Il frappe très fort. En face, Gerald Merkart. Bah, alors lui, c'est vraiment le baroudeur, on va dire, du UFC ou alors même du MMA en général. Hein, il a une sacrée carrière et puis un record à la Rocky aussi. Mais je suis clairement intéressé par ce qu'on voit parce que j'ai envie de voir si Joe Pyfer est capable de monter dans le classement. Tout simplement parce que, bon, on est aussi dans une catégorie qui n'a pas énormément de compétition, de compétitivité. Hein. On est chez les middleweight et c'est assez facile, je pense, de percer dans le top 15. Joe Pyfer n'est pas encore classé, mais je soupçonne qu'une belle petite victoire ce samedi prochain pourrait le propulser mais aux portes du classement. Oui, je sais, pour son deuxième combat uniquement, je suis un peu foufou, mais on est chez les middleweight, il ne faut pas l'oublier. Et Joe Pyfer peut être impressionnant. J'ai hâte de le voir quand même, parce que comme je vous le dis, c'est un combattant qui livre des prestations intéressantes et assez spectaculaires. Je vous le conseille. Puis en toute transparence aussi, hein, je vous avoue que le restant des early prelims ne me vend pas forcément du rêve. Il y a beaucoup de noms que je connais pas. Et puis voilà, ça m'intéresse pas forcément non plus. Hein. Il faut être honnête aussi. On n'a pas forcément envie de tout regarder et de se forcer à 100%. Donc je vais passer directement aux prélims. Même dans les prélims, hein, il était censé avoir Chris Barnett qui devait se battre en heavyweight. Lui qui est plus. Qui a un gros caractère sympathie, hein, notamment grâce à ses victoires impressionnantes et le fait qu'il soit un caractère très très sympathique, Chris Barnett. Malheureusement, je crois que son combat a été annulé il n'y a pas longtemps. Michel Waterson aussi se bat sur la carte préliminaire. Je vous avoue que ces combats ne sont pas ceux que j'anticipe le plus, hein, parce que je trouve que son MMA est très basique. Par contre, j'ai vu qu'elle avait signé un gros contrat, je crois 6-8 combats, quelque chose comme ça. C'est assez fou. Le UFC signe un peu plus longtemps. C'est star, entre guillemets, parce que Michelle Waterson, alors elle, c'est vraiment le journeyman de la division strawweight, mais apparemment, le UFC a un bon capital de sympathie avec elle. Elle plaît au UFC. Le combat qui était super intéressant aussi dans les early prelims, c'est Michael Chiesa contre Li Jingliang. Malheureusement, je crois que c'est Jinglang ou Chiesa qui a été blessé. Ah non, pardon, c'est Li Jingliang qui a été blessé, blessure au dos apparemment, qui pourrait nécessiter une chirurgie. C'est dur, une opération, pardon. Bah, chirurgie, ça marche aussi. C'est dur pour lui, hein, lui qui a la poisse, clairement, Li Jingliang, enfin, qui a la poisse. Ça peut être sur des côtés rigolos comme moins rigolos. Voilà, il s'est tapé Khamzat en short notice et il s'est fait exténuer, il s'est fait manger, il s'est fait atomiser. Il avait préparé le plus beau des costumes de l'année 2022. Malheureusement, la conférence de presse a été annulée. Il n'a même pas pu le montrer. Hein, voilà, il aurait eu le droit à une photo Instagram uniquement. Puis là, là je crois qu'il avait gagné son dernier combat. Et puis bon, je trouvais que le match-up était vraiment pas mal avec Chiesa parce que Chiesa, lui aussi, un peu un record en Dante, lui qui avait une belle série de victoires et que ça s'est arrêté, il me semble, sur la dernière année. Donc c'était un match-up qui faisait du sens chez les welterweights. Li Jingliang avait perdu contre Daniel Rodriguez à la décision split, mais avant ça, il avait gagné par TKO contre Muslim Salikov. J'étais content de revoir Li Jingliang. Malheureusement, on ne le reverra pas, le pauvre s'est blessé. Je ne sais pas s'ils vont remettre Chiesa contre quelqu'un d'autre. Ça va être chaud de trouver quelqu'un chez les Welters. Hein. Chez les Welters, c'est compliqué. Hein. Il n'y a pas non plus grand-chose. Ouais, je vous dis, Chiesa, il était sur 4 victoires de suite, et puis après, bon, il a perdu contre Luque sur un Dark Choke en plus, hein, qui est ça qui perd en grappling, c'est pas facile. Et après, il a perdu contre Brady à la décision, mais bon, Brady est très très bon quand même, et c'est un ogre dans la cage. On verra si on récupère quelqu'un, ça m'étonnerait. À l'heure où j'enregistre ce podcast, dimanche 2 avril, 9h50 du matin, voilà, pas de news sur un possible combattant face à Michael Chiesa. Ça pue l'annulation. C'est ballot, c'est bête, j'aurais bien voulu voir ce combat. Et pour clore les prélims, par contre, petit match-up sympa. Petit match-up qui fait du sens. Kelvin Gastelum contre Chris Curtis. Alors, Kelvin Gastelum, vous pouvez me dire, oui, bon, c'est pas non plus le combattant qui fait rêver en 2023 par rapport au fait que il a beaucoup perdu récemment, hein, depuis sa défaite contre Israel Adesanya, la carrière de Kelvin Gastelum n'est pas folle quand même, hein, parce qu'il a quand même battu Bisping et Jacare avant de perdre contre Israel. Après, il a perdu Darren Till, perdu contre Jacques Manson. Il a regagné vite fait contre Ian Heinisch, et après perdu contre Whittaker et perdu contre Cannonier. Donc lui qui avait potentiellement le pédigré d'aller toucher l'or, il le touchera pas, je ne pense pas. Maintenant, il commence à être un peu dans les fins fonds du classement, me semble-t-il. Et face à lui, Chris Curtis. Alors lui qui s'était mis un peu le public des fans du UFC à dos après une défaite vraiment pas belle contre Jacare Manson, hein, et puis lui qui s'était plaint tout du long du combat, qui parlait mal, qui faisait des réflexions qui n'avaient pas forcément raison d'être, et qui s'est vraiment bien pris contre Joaquin Buckley à UFC 282 en décembre, avec un KO au deuxième round. Alors, je pense qu'il a une bonne force de frappe, hein, et puis il sait bien pas mal se déplacer dans la cage quand il faut. Contre Gastelum, je pense que ça peut être une belle étape pour lui de encore remonter un petit peu au classement. Action Man, 35 ans. Kelvin Gastelum, 31 ans, c'est fou, hein, Kelvin Gastelum est encore vraiment jeune, hein, il nous vient du TUF, The Ultimate Fighter, et lui, Chris Curtis, est passé un peu par toutes les divisions, hein. 1m78, welterweight, middleweight, light heavyweight, donc maintenant il est chez les middleweight, je pense que c'est son poids de prédilection maintenant. Et je pense qu'il avait pas mal tout gagné au UFC avant. On peut gagner contre Phil House, gagner contre Brendan Allen, gagner contre Rodolfo Vieira, et puis un faux pas face à Jarkin Manson. Mais je pense que c'est une prestation qui est complètement oubliée pour lui, vraiment à mettre derrière lui. Encore une fois, hein, pour une raison d'attitude, etc., c'était assez pathétique. Mais il faut savoir excuser ces comportements-là. Nous sommes des humains, les fighters sont des êtres humains. Il faut savoir passer à autre chose. Il l'a fait contre Joachim Buckley. Va-t-il le faire face à Kelvin Gastelum ou est-ce la rédemption pour Kelvin Gastelum? Écoutez, c'est pas le combat de l'année, hein, évidemment, mais pour clore les prélims, moi, je trouve ça pas mal du tout. On passe donc à la main card avec un beau petit combat pour ouvrir cette main card. Raul Rosas Jr., 18 ans, le fighter qui nous vient des Contender Series, qui est, je crois, le fighter à avoir signé le plus jeune dans l'organisation du UFC, à ses 17 ans. Face à lui, Christian Rodriguez. Raul Rosas Jr., qui, moi, m'avait beaucoup impressionné dans les Contender Series à l'époque. Je sais, j'en parle beaucoup, mais je les regarde et c'est intéressant. Il avait vraiment livré une belle prestation. Son grappling était vraiment, vraiment très, très bon. Surtout très précoce, hein, pour son âge, je trouve, à 17 ans, d'avoir... après, c'est la génération Nogi qui s'adapte bien au MMA, etc. Donc, c'est sûr que c'est plus facile, dans un sens, pour cette génération-là, de rentrer, puis d'avoir un talent, un petit peu une coche au-dessus de ce qu'il y a par rapport à 10 ans, par exemple. Mais quand même, pour son âge, extrêmement précoce et extrêmement à l'aise dans son grappling, énormément de prise de dos sur son adversaire. J'avais trouvé, et même dans les Contender Series et dans son dernier combat, qu'il avait cette fâcheuse tendance à perdre la position du dos. Donc, c'est-à-dire qu'il est positionné un petit peu trop haut sur le dos de son adversaire, et son adversaire, s'il se retrouve en tortue, a juste à poster un petit peu sur ses jambes et puis secouer un peu le cul pour que son adversaire glisse doucement et perde la position. Ça, je l'ai vu, ça lui est arrivé plusieurs fois à Raul Rosas Jr. et c'est quelque chose qui, je pense, devrait travailler si il veut aller tâter la compétition. Je vous rappelle qu'il est dans les bantamweight, hein. Donc évidemment, à partir du top 15, top 20, voire même top 25 chez les bantamweight, c'est très, très, très compliqué. Il faut être très, très bon et vraiment un monstre de travail et de précision, de tout, pour pouvoir justement aller tâter la compétition. Donc ça m'intéresse de savoir comment il va aller justement anticiper ce combat, comment il va aller chercher son adversaire Christian Rodriguez, qui lui aussi est très bon en grappling et qui lui aussi vient des Contender Series. Il avait gagné un combat par la suite sur une soumission. Après au UFC, il avait perdu un combat par la décision unanime. Et après au UFC, son dernier combat, c'était en octobre 2022, il a gagné sur Anaconda. Donc ça va être intéressant, mais je pense que ça va être un combat quand même axé sur le grappling. Donc attendez-vous à ce que Raul Rosas Jr. Aille pousser pour un takedown, sûrement pousser son adversaire vers la cage et puis essayer de lui prendre le dos et de le taper. Je l'ai vu plusieurs fois faire ça et puis je parierai une petite pièce là-dessus que c'est ce qu'il essaiera de faire samedi prochain. Ne surtout pas se presser pour Raul Rosas Jr. Prendre son temps, il a 18 ans, il y a encore énormément de chemin à faire, il est dans une catégorie d'assassins, la catégorie sûrement la plus compétitive de UFC. Prendre son temps face à son adversaire, prendre son temps entre les combats, travailler les petits défauts, les gommer et continuer à avancer. Et on va voir qu'est-ce qui se passe samedi pour lui, mais attention, comme je vous l'ai dit, Sirod, son adversaire, n'est absolument pas mauvais et aussi très bon en grappling, ça va être cool. Un autre combat fun pour enchaîner, ça va être Santiago Ponzinibbio face à Kevin Holland. Santiago Ponzinibbio qui est un peu, malheureusement, le seul Argentin dans le roster du UFC à avoir eu un semblant de carrière. Bon, je sais que les autres qui viennent d'arriver n'ont fait que perdre leur premier combat, il ne faut pas les enterrer tout de suite. Mais pour l'instant, ça reste, encore une fois, lui du haut de ses 36 ans, le welterweight, la référence argentine au UFC. Pour moi, du moins, hein, pour les viewers, on va dire plus ou moins modernes, hein, je ne regardais pas UFC à UFC 50 ou UFC 100 encore à l'époque. C'était pour moi, ce gars-là, la référence chez les Argentins. Et face à lui, Kevin Holland. Alors, Kevin Holland, lui, clairement, un peu aussi en mode journeyman slash gatekeeper de l'entrée de la division des welter ou des middleweight. Parce qu'un combat, des combats bien trop en dents de scie, un record bien trop en dents de scie, hein. Lui qui, l'année du Covid, a tout explosé, hein. 5 victoires de mai à décembre, et une belle victoire pour finir sur Jacaré, puis après des défaites face à Bronson, des défaites face à Vettori, des no contest, et après il se reprend avec 2 belles victoires, mais bon, il tombe sur Khamzat et il tombe sur Stephen Wonderboy Thompson, et là ça se passe mal pour lui. Mais bon. Hein, il a pris son cash face à Khamzat en short notice, il me semble. Good for him parce qu'il le mérite. Et puis apparemment, il a plein de gosses, donc il a besoin d'argent. Mais moi, il me plaît quand même. Hein. Franchement, il est cool et puis il est fun. Et puis il s'est quand même amélioré sur certains points. Il sait un peu plus lutter. Il est un petit peu plus, plus sérieux, on va dire, dans son approche des combats. Et quand je parle de ça, c'est pas de son entraînement ou quoi que ce soit, c'est, je trouve, la façon dont il se déplace et son striking. Vraiment, le fight IQ s'est amélioré pour Kevin Holland, mais je sais que ça reste limité. J'en suis conscient. Par contre, en face de lui, Santiago Ponzinibbio, c'est limité aussi, hein. Lui, pendant un moment, ça va vous paraître bizarre, mais il était là-haut avec Usman pour être un contender pour pouvoir aller chercher la ceinture chez les welterweight. C'était un peu l'époque où Tyron Woodley était champion et où on avait les Tyron Woodley face à Stephen Wonderboy Thompson. Donc oui, ça date de 6 ans, quelque chose comme ça, 5-6 ans. Mais à un moment donné, il était là-haut. Hein. Toutes les divisions ont eu des périodes de creux au niveau de la compétition avec des rosters qui sont pas les plus glamour. Et ben Santiago Ponzinibbio était là-haut, mais ben, on va dire depuis les 3-4 dernières années, ça va moins bien avec des défaites face à Geoff Neal, des défaites face à Michel Pereira et une petite rédemption en décembre avec une belle victoire face à Alex Morono par KO au troisième round. Donc voilà, c'est un combat pas forcément des plus excitants, mais un match-up qui fait du sens. Donc match-up en tout cas validé. Après le combat, on verra au niveau de la qualité. Ça, c'est dur à anticiper pour toutes les raisons que je viens de vous donner, à savoir un peu l'irrégularité du niveau des deux compétiteurs. Et on enchaîne avec un autre combat chez les Bantamweight, c'est Rob Font face à Adrian Yanez. Alors celui-là, il me plaît vraiment bien. Bah, parce que les deux sont très bons, parce que on est chez les Bantamweight. Il me semble que Adrian Yanez est 12 et Rob Font doit être quelque part au même endroit, ou alors il est même pas classé peut-être. C'est tellement compétitif chez les Bantamweight que pff, ça c'est compliqué d'être classé au final. Donc Rob Font, lui, qui vient bah, malheureusement de deux défaites, mais qui avant ça était sur 4 victoires. Hein. Je vous rappelle, il avait gagné contre Sergio Pettis, Ricky Simon, Marlon Moraes et Cody Garbrandt. Donc pas non plus des garagistes. Et Adrian Yanez, lui, qui a un gros capital sympathie auprès des fans aussi, qui est tout simplement invaincu au UFC, qui vient des Contender Series et qui a enchaîné 5 victoires derrière. Bon, lui, il n'a pas forcément des plus gros noms sur son CV, mais il monte, il monte, il monte. 29 ans, Black Belt en Jiu-Jitsu. Voilà quoi, le vrai compétiteur est, comme je vous ai dit, 12e chez les Bantamweight. Bon, Rob Font, lui, c'est compliqué parce que, évidemment, il a perdu contre José Aldo et Marlon Vera. Hein, c'est pas non plus les pires, excusez-moi, chez les Bantamweight. Mais qui ne se combat pas souvent. Hein. Un combat, deux combats en 2021, un combat en 2022 pour Rob Font, tandis que Adrian Yanez, lui, au final, il s'est battu une seule fois aussi en 2022. Il s'est un peu plus battu avant. Donc ouais, c'est intéressant. C'est intéressant entre les deux. Bon, évidemment, c'est sûr que Yanez paraît un petit peu plus en forme. Et je trouve qu'il se déplace tellement bien dans l'octogone lui aussi. Mais bon, chez les Bantamweight, ça va vite. Hein. Je trouve que c'est peut-être les flyweight sont peut-être un peu plus rapides, mais chez les bantamweight, il y a un peu plus de force de frappe, on va dire, un peu plus de knockout power. Donc c'est vraiment intéressant. Mais Adrian Yanez, son jiu-jitsu est super bon aussi. Il a commencé le MMA à 15 ans. Enfin voilà, c'est un petit monstre. C'est un petit monstre, Adrian Yanez, et ça, c'est un super match-up entre les deux. Vraiment un beau combat. Et puis vive les bantamweight, quoi, cette catégorie d'assassins. Je pense que c'est un très beau combat pour cette soirée. Et j'ai hâte de le voir celui-là aussi, évidemment, les bantamweight. À chaque fois, ça envoie du lourd. Bon, on arrive sur le co-main. Et un co-main qui est au niveau du match-up, un peu bizarre. Alors, Gilbert Burns face à Jorge Masvidal. Gilbert Burns, quel combattant ce mec, hein. Une vraie légende du MMA, une légende du Jiu-Jitsu, une légende des arts martiaux, tout simplement. C'est un gars qui est fort, qui a mérité d'aller chercher son title shot, qui a secoué Ousmane, mais qui après s'est fait Ousmane par Ousmane, qui ne s'est pas fait Ousmane par Kamaru, hein. Beaucoup sont passés par la case Kamaru et beaucoup s'y sont cassés les dents. Mais Gilbert Burns, je trouve que ce gars-là, c'est un peu le gatekeeper du top 3, voire du top 1, hein, chez les welters. Il a changé de catégorie, mais chez les welters, je le trouve qu'il est bien. Et c'est un monstre de MMA. Dans le sens où, oui, c'est un gars du sol, etc. Mais on l'a vu contre Hamzat. Ça reste un combat référence, je pense, pour Gilbert Burns. Même s'il l'a perdu, pour moi, c'est un gros combat référence. Bah, parce que il a réussi à montrer le côté humain de Khamzat. Dans le sens où il a donné un vrai combat à Khamzat, il a fait peur à Khamzat, il a touché Khamzat, et il a résisté à la lutte de Khamzat, et pour ça, ben, gros chapeau. Il a battu Neil Magny, il a battu Stephen Thompson, il a battu Tyrone Woodley, il a battu Demian Maia, hein, en knockout avec un punch au premier round, il a battu Gunnar Nelson, donc ça veut dire que il est capable d'aller battre des lutteurs, il est capable d'aller battre des gars du Jiu-Jitsu. Bon, je ne vais pas dire striker pour Stephen Thompson, parce que oui, c'est un striker, mais bon, voilà, c'est plus un karatéka qu'un striker. Voilà, jetez-moi des canettes si vous voulez les karatékas. Mais ça reste un monstre. Gilbert Burns, à son âge, 36 ans, cette carrière de fou quand même, hein, parce que bon, évidemment, énormément de Jiu-Jitsu derrière lui, etc. Et puis, ben, un beau petit record quand même. Le gars est à 26-5. Hein, et puis, excusez-moi, il est passé par l'UFC et il est passé par la case Khamzat et la case Kamaru. Donc, c'est un gars qui est exceptionnel. Voilà, je vais pas vous refaire tout son pédigré non plus. Vous n'êtes pas venu là pour ça. Vous êtes venu pour la preview face à lui, Jorge Masvidal. Et je vais pas y aller par quatre chemins. Jorge Masvidal, j'ai un peu l'impression qu'il est, je dirais pas cuit, mais qu'il n'a plus la possibilité ou la force de tourner le combat en sa faveur face à des adversaires qui sont trop bons dans un domaine spécifique. Je vais m'expliquer. Contre Kamaru, ça n'a pas marché. Hein, contre Kamaru, il s'est fait genre, il a perdu à la lutte sur 5 rounds au premier combat. Deuxième combat, il s'est fait sécher, vous l'avez tous vu, avec une droite directe pleine mâchoire. Et dernier combat face à Colby, il s'est embrouillé comme pas possible et il s'est fait lutter contre la grille. Il n'a rien su faire. Par contre Nate Diaz, je sais, c'est Nate Diaz. Hein. Contre Nate Diaz, bon, ça date de 2019, hein, en novembre, donc c'est 3 ans et demi. Contre Nate Diaz, bon, il l'a quand même outboxé, hein. Et pas qu'un peu, vraiment, il l'a puni. Il a puni Nate Diaz avec la boxe, avec le striking. Je le trouvais vraiment plus à l'aise dans la distance, sur des one-two, sur de la boxe simple en ligne, et puis dans les déplacements, plus rapide que Nate Diaz, plus malin. Après, c'est Nate Diaz en face, hein. Voilà, c'est Stockton style, et puis ça brawl un peu, et puis quand ça va au sol, c'est dangereux, mais voilà. On va pas refaire son résumé ou sa carrière non plus, mais comme je vous dis, je suis pas sûr que Jorge Masvidal, mais après on l'a pas vu depuis 4 ans, hein, possiblement contre un adversaire qui n'est pas, comme je vous le dis, un surdoué dans un domaine spécifique du MMA. Ben Gilbert Burns, il est surdoué au sol, il est bon en lutte, il est très bon en MMA. Donc pour cette raison, je ne sais pas si Masvidal, qui est lui, bon bah pour arriver au niveau où il est, il faut quand même le dire, il est bon en MMA, mais pas très bon dans un spécifique abcès du MMA. Peut-être le brawl. Bon, si vous voulez mettre le brawl dans le MMA, ben à ce moment-là, Masvidal, je pense que il est bon, hein, de par son passé de bagarreur de backyard. Mais comme je vous le dis, je pense que contre un adversaire qui est très bon dans un domaine, c'est chaud. À chaque fois pour Masvidal, sur les trois derniers combats, ça l'a montré qu'il avait une grosse limite là-dedans. Bon, après, c'est sûr, la lutte contre des lutteurs, c'est toujours compliqué. Mais après, bon, Kamaru Usman a boxé avec lui à un combat et puis il s'est fait arracher la tête pareil, hein, alors qu'il a arraché la tête de Nate Diaz avant. Est-ce qu'on n'est pas sur une slippery slope, une descente infinie pour Masvidal à 38 ans? Ça pourrait l'être, hein. Bon, après, le gars, une carrière de ouf, hein, genre, excusez-moi, mais 51 combats en combat pro de MMA, hein, c'est pas tout le monde qui a ça, quoi. Puis il a eu une bonne série aussi, mais bon, quand même, Till, Askren, Nate Diaz, c'est pas mal. Mais bon, ça reste un rookie de la division, et puis il a quand même eu deux title shots. Donc c'est quand même une carrière assez fofolle, mais comme je vous le dis, j'ai peur face à Burns. Mais encore une fois, Burns, c'est pas forcément le plus gros des lutteurs, même s'il est bon en lutte. C'est peut-être pas ce qu'il va aller chercher, donc peut-être on va avoir un peu de combat debout. Mais si ça va au sol, c'est clairement chaud pour Masvidal, ou même en réfléchissant à l'avance, c'est un peu chaud pour Masvidal. Encore une fois, comme je vous le dis, il faut que ça aille un peu dans son sens, soit un peu debout et avec un peu de tout, mais pas forcément une seule dimension du MMA, sinon c'est très compliqué pour lui. On a quand même hâte de voir Gilbert Burns, hein, parce que si Gilbert Burns gagne, il a un title shot, je pense et j'espère. Si Masvidal gagne aussi, il a un title shot. Et bon, ça, voilà, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, ça me fait peur. Mais, sur le papier, Burns a un petit avantage. Et on peut passer au main event, Izzy face à Poatan 2. Alors, j'ai vu passer des déclarations d'Izzy qui disait c'est un peu sa dernière chance. Je ne sais pas s'il parlait de sa dernière chance, j'ai pas lu l'article, hein, je vous avoue, j'ai juste lu le titre. Est-ce qu'il pensait à sa dernière chance en MMA, au niveau pour rester champion? Ou est-ce qu'il pensait à sa dernière chance face à Poatan? Ou les deux? Je vous laisse deviner. Écoutez. Je viens de revoir le combat et j'ai trouvé ça passionnant parce qu'il y a pas mal de choses à retenir de ce combat-là. Et puis, Poatan m'a aussi encore impressionné de par sa pression. C'est vrai qu'au premier round, la gestion de la distance était pas mal égale entre les deux adversaires parce que je pense qu'ils se jaugeaient un petit peu les deux aussi, hein. S'ils savent qu'ils pourraient aller sur 5 rounds et c'est aller sur 5 rounds, t'es mieux de gérer un peu la distance au début pendant les premières minutes, jauger un peu ton jab et tes kicks, etc. Par la suite, clairement, sur la plupart des rounds, Poatan pousse pour aller contre la grille, pour se retrouver dans sa position de prédilection, à savoir dans la poche. Hein, quand Poatan close la distance, c'est là qu'il est le plus dangereux, c'est là qu'il gagne contre ses adversaires. Il l'a fait en kickboxing aussi. Maintenant, Izzy, on l'a vu au premier, puis au deuxième aussi. Il gère bien contre la grille, mais cette gestion n'est pas ne fonctionne pas sur le long terme. Ça marche pas parce que c'est facile de faire des beaux petits head movements et de faire des gauche-droite, 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 sortir à l'extérieur, etc. Mais ça s'use de l'énergie en tabernacle. Et même si Izzy est super bon là-dedans, hein, il a des bons mouvements défensifs et il adore faire des counters, etc. Face à Poatan, on a vu que clairement, sur 5 rounds, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a la dimension physique, il y a la cardio, il y a tout ça qui prend en compte, qui doit être pris en compte. Et si tu joues trop là-dessus, ben ça te joue des mauvais tours et ça on l'a vu, hein. Izzy s'est retrouvé encore au cinquième contre la grille, mais il avait plus le jus qu'il avait au premier. Son head movement n'était pas aussi efficace, hein, il baissait carrément la tête, limite Poitain aurait pu lui mettre un genou pleine face. Et puis Poitain avait trop de liberté dans son striking et puis il a fini Izzy. Parce que t'as plus les ressources physiques pour vraiment sortir efficacement, parce que ton head movement n'est pas aussi rapide qu'il l'est dans le premier round. Et puis en face, c'est Poatan. Donc ça marche pas, clairement. Et en plus, quand tu es le champion perdant sortant, Izzy, tu peux pas te permettre d'avoir cette tactique-là pour pouvoir essayer de le battre. Donc ça, c'est quelque chose clairement à changer. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que aussi, quand Izzy repousse Poatan et qui veut remettre le combat au milieu du ring, ben Izzy gagne. Izzy gagne le round et Izzy est plus à l'aise et Izzy gère le combat. Ça, il l'a fait bien avec des kicks et puis à repousser Poatan, parce que Poatan aussi, hein, c'est quand il s'est pris quelques coups qu'il a gagné un peu le respect d'Izzy et que Izzy commence à mieux justement gérer la gestion de la distance de son adversaire, de le garder à distance, hein, pas juste de reculer, parce que là, encore une fois, il se retrouve contre la grille, mais genre envoyer un kick, ressortir, envoyer un kick, ressortir, envoyer un kick, ressortir, lancer des 1-2, ben, la boxe d'Izzy était nettement meilleure quand on était au centre de l'octagone et nettement plus efficace, hein, parce qu'il a passé plusieurs 1-2 sur Poatan, il a passé des directs dans la face de Poatan, et il se sentait mieux, il était plus à l'aise, il gérait le combat et il gagnait le round. Même, et attention là vous allez me détester, pas vous allez me détester, mais vous allez me dire que je dis de la merde probablement, mais même quand Izzy a eu la possibilité de passer un takedown, quand il y avait de la place au milieu de l'octagone, parce que pousser un takedown quand t'as le dos contre la grille, c'est plus compliqué, t'as beaucoup moins de distance, t'as moins de place pour pouvoir rentrer dans ton adversaire et déstabiliser sa posture. Izzy aussi, comme je vous le dis, quand il avait de la place au milieu et qu'il a pu aller grappler, bon, c'est un grand mot, hein, Izzy est grappler, mais quand il a pu mettre Alex Poatan au sol, il l'a gardé au final tout du long du round, au sol, et puis il a gagné le troisième round, Izzy. Certes, il n'a pas la possibilité, ou alors les facultés, le talent, je ne sais pas ce que c'est. Il est quand même ceinture violette, hein, depuis au moins un an ou deux, Izzy. Quand je le voyais essayer de prendre le dos de Poatan, ça ne marchait pas. Il n'arrivait pas bien à mettre les crochets, etc. Il n'était pas forcément super à l'aise, alors qu'il avait le dos de son adversaire. Poatan était en tortue. Izzy n'arrivait pas forcément à mettre ni de ground and pound, ni mettre ses crochets, mais il a réussi à garder Alex au sol et faire le nécessaire pour gagner le round. Donc, ce que je veux vous dire, c'est encore une fois cet aspect de genre ne laisse pas Poatan trop te pousser contre la grille et être un peu entre guillemets feignant et te laisser guider par tes acquis et par tes zones de confort à l'aise, à savoir les counters and movement, échapper sur la droite gauche. Bon, évidemment, tu ne veux pas sortir du côté du crochet gauche de Poatan le moins possible, du moins, mais je pense que des fois, il ne te laisse pas le choix. Hein. C'est clair qu'il va pousser vers la droite pour que tu essaies de sortir vers sa gauche à lui pour qu'il t'en mette une. C'est dangereux. Et comme je vous le dis, le fait d'essayer de repousser Poatan au milieu de l'octogone, envoyer des 1-2, sortir, repartir dedans, ben, ça marche plutôt bien. Et pourquoi pas passer un takedown au milieu de tout ça? Comme je vous le dis, hein, et oui, Izzy n'était pas forcément à l'aise au sol, mais il l'a piné au sol, il l'a gardé au sol, et il a gagné le round. Maintenant, Poatan pousse, et Pereira pousse, et il adore pousser. Et ça, c'est dur, et puis comme je vous le dis, dans les derniers rounds, dans le quatrième, surtout cinquième, c'est chaud, parce qu'en début de quatrième, on était encore au centre, il y avait encore des possibilités de 1-2 pour Izzy, il gérait bien, même il arrivait même à passer des droites directes, ou des mains arrière directes, pardon, mais Poatan a senti que ça allait tourner dans le sens d'Izzy, et je pense qu'il a recommencé à pousser. Izzy était plus à fatiguer. Après, on a essayé de chercher du clinch aussi, hein. Même Izzy a cherché du clinch dans le 1, dans le 2, dans le 3, un peu dans tous les rounds, il me semble. Et puis, je pense que c'est un peu aussi l'adaptation sur le moment. Il y avait sûrement un game plan, hein, évidemment. Hein. Tu sais que Poatan va pousser, etc. Mais bon, je pense qu'ils ont travaillé du clinch aussi chez City Kickboxing pour dire, genre, si tu peux pas t'échapper et que Poatan est trop près et que c'est trop tard pour sortir à droite ou à gauche, ou alors pour du F-movement ou whatever, genre, va chercher le clinch et essaye justement de le mettre à ton avantage. Parce que dans le dirty boxing, Izzy est vraiment pas pire non plus. Hein. Je le vois, genre, vraiment à passer des beaux uppercuts et au-dessus des crochets, ça il était bon pour ça aussi dans le dirty boxing Izzy. Problème c'est que Poatan, quand il va clincher, il met des beaux genoux et les genoux de Poatan ça fait mal, et puis comme je vous dis, on revient sur l'histoire de la cardio, de la fatigue, etc. Qui a fait du tort à Izzy dans les derniers rounds. Donc c'est vraiment passionnant. C'est vrai que la dimension de lutte est venue un peu mettre son grain de sel là-dedans. Izzy a su a su clincher, a su gérer avec ça, mais le problème c'est qu'il n'arrive pas à finir son adversaire avec ça et ça ne marchera pas. Bon, il a failli le finir dans le premier, maintenant c'est facile de dire oui, bon, ben, il faut trouver vraiment le moyen de se remettre dans la même situation qu'en fin de round et finir son adversaire. Bon, après, Poatan poussait et il poussait un peu le menton en avant, je pense, hein, peut-être avec un petit peu moins de respect que dans les rounds d'après. Et il s'est fait clipper. Et puis, bon, c'est clairement la cloche de la fin qui a sauvé Poatan sur le round 1. Mais bon, j'ai pas envie de dire c'est un coup de chance, quoi, mais il n'aura pas forcément énormément d'occasions comme ça. Et puis, la recréer, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus facile. Et moi, je pense que c'est sur une stratégie de long terme qu'il faut aller le chercher et que ce que Easy a réussi à faire avec repousser Poatan et essayer d'amener le combat au centre de l'octagone, c'est là qu'il y aura la clé, je pense, de ce combat. Parce que les 1-2 de Easy, ça, je pense qu'il est capable de finir Poatan, parce qu'évidemment, il a une knockout power dans les mains. Et puis, Poatan, tu es capable de le rocker. Hein. Il est capable de le faire, on l'a vu. Et puis, Poatan peut se faire knockout. Ça, on l'a vu aussi dans sa carrière de kickboxing. Bon, après, c'était contre des monstres. Hein, mais Easy est pas là pour rien. Hein. C'est pas le champion, l'ex-champion, pardon, des middleweight, et avec un très beau run chez middleweight pour rien. Mais bon, là, évidemment, face à Poatan, on peut pas être dans la gestion passive, entre guillemets, hein, comme ça a pu l'être face à des canonniers et autres consorts. Mais là, c'est comme je vous dis, il faut dicter où le combat va se passer et tu veux que ça se passe plus au centre de l'octagone. Après, est-ce que tu es capable d'aller pousser Poatan contre la grille? Ça, c'est une autre idée aussi, mais est-ce que c'est pas. Se mettre en danger que d'aller rentrer dans la poche de Poatan. Je pense que Easy a les capacités de déplacement qu'il faut et que garder le combat, pardon, au centre de l'octagone le plus possible reste une bonne clé pour cette victoire face à Poatan. Encore une fois, les one-two ont bien marché. Les low kicks de Easy, ben, comme il l'a fait dans le premier round, sont pas mal non plus, mais Poatan sait les renvoyer aussi. Et Easy aussi a des très bons high kicks. Poatan a son pas pire non plus. Il a envoyé des beaux switch kicks, du left kick. Donc, encore une fois, je pense dans la boxe, je pense dans les one-two, dans les choses assez simples, mais plus au centre de l'octagone. Bordel que c'était passionnant ce premier combat et qu'on a hâte pour ce deuxième. Qu'est-ce que la suite nous donnera après l'issue de ce combat? Je ne veux même pas en parler. Je veux d'abord voir ce combat. Et merci à tous pour cette écoute. On se retrouvera donc dimanche, hein, à l'issue de ces combats. Et puis, ben, régalez-vous bien. Merci pour cette écoute. Abonnez-vous sur Twitter @guillotine514. Et puis, on se retrouve, comme je vous dis, la semaine prochaine pour le podcast post-UFC 287 à Miami. Bonne semaine à tous. Ciao les kids. Bye. At the end of the day, it is.